Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Esprit Sport où nous allons passer une heure ensemble avec autour de moi une équipe type, maître d'orchestre véritablement de cette émission. Bienvenue Coraline.
Bonjour à tous.
Comment ça va? Est-ce que vous avez passé un bon week-end?
Très 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 bien.
Une belle semaine aussi dans l'ensemble?
Bien sûr, une belle semaine, un bon week-end.
Tout va bien.
Oui, tout va bien.
Prête pour attaquer l'émission?
Exactement.
Notre arbitre avait vu juste la semaine dernière pour le résultat du TFC. Et oui, ils sont éliminés, il a l'œil aiguisé et le pronostic juste. Bienvenue Corentin.
Bonsoir Jonathan, bonsoir à tous.
Vous aussi, la semaine, tout s'est bien passé?
La semaine s'est bien passée, mais c'est vrai qu'au niveau sportif, on a quelques équipes locales qui ont failli.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de défaites en Midi-Pyrénées. Il nous fera une belle chronique dans quelques minutes, et pour une fois, on apprendra quelque chose avec lui. Maintenant que je lis mes phrases, je me rends compte que ce lancement est extrêmement négatif. Bienvenue, Erwan.
Bienvenue. Mais disons, je me sens bien accueilli ici.
Non, mais on apprend tout le temps des choses avec vous. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça.
Écoutez, je vais juste pleurer dans mon coin. Et
non,
puis,
non, c'est voilà. Une chronique après. Mais la chronique, c'est parce que vraiment, il y a beaucoup des auditeurs, des gens qui écoutent, qui vont apprendre des choses. Et oui, parce que c'est une vraie chronique. On n'a pas l'habitude de traiter de ce genre de sujet. Et vous verrez ça dans quelques instants. On va évidemment commencer avec les tops et les flops de l'équipe du jour. À suivre un entretien olympique en face à face avec Monsieur Zoubir Kefi, quatrième dan de taekwondo. Il enseigne depuis plus de 30 ans à Toulouse. Il a remporté plusieurs titres régionaux et nationaux. Il a aussi participé à la préparation de l'équipe de France pour les JO de 2000 à Sydney. Un véritable passionné qui nous parlera de son sport, qui sera bien représenté au JO de Paris en juillet prochain. Après ce week-end, vous le savez, le plateau d'Esprit Sport se pose toujours beaucoup de questions. Et le lundi, on essaie d'y répondre. Le TFC éliminé en 16e de finale de Coupe de France. Mais est-ce que les violets méritaient-ils d'aller plus loin? C'est la question de ce week-end. Et puis on terminera avec un pronostic et une analyse de match du week-end, comme Corentin l'a si bien fait la semaine dernière. Mais tout de suite, on commence par l'information sportive de la région. Et c'est tout de suite avec Corinne Saint-Félix.
L'infosport avec Corinne Saint-Félix.
Belle victoire en Champions Cup pour les Rouges et Noirs.
Oui, le Stade Toulousain s'est imposé hier face à Basse 31-19. C'est leur quatrième victoire de suite en Coupe d'Europe. Les deux équipes étaient pourtant dos à dos à la pause 19-19. Une victoire avec bonus offensif qui permet aux hommes du Gomola de terminer premier de la poule B avec 4 victoires en 4 matchs. Le Stade Toulousain recevra le Racing 92 en 8e de finale.
En foot, fiasco pour le TFC en Coupe de France.
Oui, le Toulouse Football Club a perdu au tir au but contre le Rouen FC hier. Le vainqueur en titre de la Coupe de France est tombé contre une équipe évoluant 2 divisions plus bas. Le tenant du titre s'est fait bousculer d'entrée. Le TFC va désormais se tourner vers la Ligue 1. Prochain match contre Lens dimanche à 17h05.
A noter que les deux finalistes de la précédente édition sont d'ores et déjà éliminés. Autre défaite, celle de Rodez qui chute contre Monaco.
Et oui, vainqueur la saison passée de Monaco en Coupe de France, le Rodez Aveyron Football n'a pas réussi à rééditer l'exploit samedi dans son antre de Paul Lignon. Les Ruthénois se sont finalement inclinés 3-1 malgré un match très sérieux de leur part. L'AS Monaco se qualifie donc pour les huitièmes de finale de la Coupe de France.
Du ballon rond toujours, mais avec les mains. En basket, le TGB se qualifie pour les demi-finales de Coupe de France.
Après Nice et Toulouse, les Tarbes se sont imposés hier après-midi à l'AT Montpellier en quart de finale de la Coupe de France. Après deux équipes de LF2, le TGB a lutté à armes égales face à une équipe héroltaise, cinquième de LFB et récemment qualifiée pour les quarts de finale de Coupe d'Europe. Les joueuses de François Gomez rejoignent Basketland, Lyon et Bourges dans le dernier carré. Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France féminine a lieu aujourd'hui à Paris.
Joli succès d'Arthur Cazot à l'Open d'Australie.
Pensionnaire du Stade Toulousain Tennis, Arthur Cazot, âgé de 21 ans, a signé un exploit en battant Holger Rune, tête de série numéro 8 à l'Open d'Australie. Une victoire en 4-7, 7-6, 6-4, 4-6, 6-3 et 3h22 de match. Le Toulousain, classé 122e à l'ATP, signe ainsi le plus grand exploit de sa jeune carrière.
Et alors que l'Open d'Australie, justement, bat son plein chez les professionnels, les futures stars du tennis se retrouvent en France, à Tarbes.
Et oui, et ce célèbre tournoi pour les jeunes de 14 ans et moins est l'occasion de voir jouer de potentiels futurs grands joueurs ou grandes joueuses de la petite balle jaune. Alors qui succédera cette année au Britannique Mark Seban chez les garçons et à la Russe Anna Puskarov chez les filles? Réponse à l'issue de ce tournoi. Le tournoi des petits as a démarré sa phase de qualification jeudi dernier. Le tableau final des garçons et filles, lui, débute aujourd'hui et se terminera le dimanche 28 janvier.
Les tops et les flops.
Et donc, premier rendez-vous de cette émission, les tops et les flops. Et on va commencer cette fois-ci par Corentin.
Alors, écoutez, pour mon top, j'aurais aimé vous parler de Sébastien Loeb, mais hélas, entre lundi dernier et aujourd'hui, l'Alsacien a été trahi par son équipe et a laissé le Dakar s'échapper. Donc pour mon top, on va parler football et on va surtout se concentrer sur les séances de tir au but de ces 16e de finale de Coupe de France. Trois séances de tir au but, trois séances où on est allé au-delà des 5 tireurs prévus en début de séance. Rennes-Marseille, 9 à 8 pour Rennes, 5 à 4 pour Sochaux face à Reims avec un but décisif au 6e tireur. Et enfin, 12 à 11 pour Rouen face au TFC avec 23 pénaltys sur 24 réussis. Alors est-ce que les attaquants étaient meilleurs? Est-ce que les gardiens étaient fébriles? J'ai pas forcément la réponse, mais en tout cas les équipes semblent avoir travaillé. Pensionnaires de Ligue 1 ou équipes plus modestes, tous ont fourni des efforts et une prestation de qualité dans cet exercice. Et c'est peut-être le fruit de staff qui ne considère pas les pénaltys comme de la loterie. On est en droit de se demander si le football français est en train de se réarmer pour ses futures échéances.
On a le souvenir de la Coupe du Monde en Argentine, perdue.
On a des mauvais souvenirs, hein, l'équipe de France, la Coupe du Monde en Argentine, l'Euro face à la Suisse.
En finale, oui. Très compliqué, c'est encore vif.
Un petit peu. Pour mon flop, du coup, on va parler de foot, mais d'une partie un petit peu plus sombre. Mike Maignan a été visé samedi lors d'un match entre l'Udinese et l'AC Milan par des cris de singes et des chants racistes qui sont descendus des tribunes. La rencontre a été interrompue 10 minutes après que le gardien et ses coéquipiers soient allés voir le corps arbitral. Le portier international français a reçu une vague de soutien de la part de ses coéquipiers, en club ou en sélection, de la Fédération française également, même du maire de la ville, d'Udinese, qui s'est insurgé contre ses propres supporters, et également beaucoup de supporters dans le monde entier. Mais cet événement n'était malheureusement pas le seul du week-end. Cela a eu aussi lieu dans le parcage lillois hier face au Racing Club de France, et ce sont même les supporters lillois qui ont dû dénoncer ces attitudes sur les réseaux et auprès de certains journalistes. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est la réaction des instances qui condamnent ce genre d'action, mais qui n'agissent jamais.
C'est vrai, et c'est tout le monde s'est offusqué de ça, même Wendy Renard en foot féminin a dit que toutes les instances devaient se réveiller. Voilà, c'est un fléau catastrophique qui, si je dis pas de bêtises, a assez souvent lieu en Italie. On a eu déjà avec un joueur du Milan, Rafael Leao, qui a déjà aussi subi ça. Enfin, c'est assez incroyable et voilà. C'est que dire de plus.
Il y avait aussi Vlahovic quand il était à la Fiorentina, qui était très régulièrement la cible d'insultes racistes, puisque c'est quelque chose dont on a très peu conscience en France, mais une grosse discrimination envers les personnes issues des Balkans en Italie, qu'on considère généralement comme des gitans et discriminés pour cette raison-là, qui n'est déjà pas une raison pour discriminer les gens et qui en plus est un cliché, parce que toutes les personnes qui viennent des Balkans ne sont pas forcément issues de cette communauté. Donc voilà, c'est effectivement, il y a beaucoup de problèmes sur le racisme en Italie.
Après, il y a une politique aussi qui va dans ce sens aussi, peut-être aussi.
Effectivement.
Voilà, c'est assez peinant, mais bon. Nous, à notre niveau, ce qu'on peut être, c'est dire au monsieur d'à côté que c'est pas bien, espérer pas se faire casser la figure, et puis être un bon supporter. Enfin bref, sur ce, merci beaucoup Corentin. Coraline, mon petit doigt me dit qu'on va chausser les skis.
On va chausser du ski, en effet.
On va chausser du ski.
Exactement. Mon flop, ça sera pour le biathlon homme et ça sera pour la mass start. Direction le nord-est de l'Italie, ce week-end à Antols, le biathlon était à l'honneur. C'est un flop de tristesse pour les Français et tout particulièrement pour Quentin Fillon-Mallier. Excellent au tir, 20 sur 20, avec un bon temps au tir et malgré toute l'énergie déployée, il ne parvenait pas à garder son avance sur ses concurrents. Après le dernier tir, il possède 20 secondes d'avance sur ses poursuivants. On se dit, l'affaire est pliée, médaille d'argent pour notre Français. Eh bien non, les skis n'étaient pas au mieux de leur forme. Grégoire Deschamps, responsable technique de l'équipe de France, s'est d'ailleurs excusé auprès des biathlètes pour ce problème de fartage. Quentin Fillon-Mallier termine tout de même quatrième, participe donc à la cérémonie des fleurs où il était le seul non-norvégien, Christiansen ayant terminé en tête. Et mon top, ça sera pour une galette des rois pour le français d'Autriche. Ils ne sont que 7 à pouvoir dire « J'ai gagné 2 fois la descente de Kitzbühel en Autriche ». Depuis ce week-end, le français Cyprien Sarrazin fait partie de cela. Vendredi, le tricolore avait déjà réussi l'exploit du meilleur chrono et donc remporté une première victoire. La dernière fois qu'un Français avait gagné à Kitzbühel, Erwan et Corentin Panet et Jonathan et moi-même mettions encore des couches puisque c'était en 1997.
Ah oui.
Très 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 technique comme descente, un mur par moment de 85%, une vitesse pharaonique de 140 km/h. Des sauts de plus de 20 mètres, le Français a été agressif et fait la belle opération du week-end puisqu'il se classe deuxième derrière le Suisse Marco Odermatt, très loin devant puisque 500 points séparent les deux hommes.
Ça me fait rire parce que du coup, vous avez parlé de 97, que Corentin et Erwan n'étaient pas nés. Ce qui va, je pense, beaucoup faire rire Anne-Françoise et Corinne et Eric Dupri, qui, elles, vont dire « Oh oui, mais moi, j'ai connu ça, mais vous, alors... hein. » Vous avez que c'est rien. Voilà, ça fait assez rire. On a une pensée pour elle et pour Eric. Merci beaucoup, Coraline.
Mais avec plaisir.
On va continuer sur les sports d'hiver, je pense.
Allez,
c'est parfait. Erwan, vous, votre top et votre flop. Alors, je vous avoue que c'est une grande surprise. On attend. Voilà.
Alors, pour moi, mon top, ça va être le rugby, parce que voilà, je parle pas assez de rugby sur cette radio.
C'est vrai.
Non, c'est bien évident, c'est un mensonge, j'en parle très souvent. Mais voilà, je tenais à féliciter les équipes qui ont joué la Champions Cup et les équipes surtout qui l'ont joué avec ambition. C'est-à-dire, je vais faire un peu les juger de manière un peu arbitraire, mais je vais citer le Stade Toulousain, l'Union Bordeaux-Bègle et le Loup, qui ont décidé de mettre des moyens sur l'intégralité de cette campagne de Champions Cup. Après, on a vu des équipes qui ont essayé de la jouer à moindre mesure ou avec une réussite sinusoïdale, pour utiliser un terme qui ne blessera personne. Donc on pourrait parler du Stade Rochelet, du Racing ou bien même de Toulon, même si l'encéphalogramme était quand même très très bas pour Toulon. Il y avait quelques équipes qui ont connu un passage très très compliqué sur cette Coupe d'Europe / Afrique du Sud. Vraiment, ça fait pas plaisir à voir parce que, comme l'a dit Yannick Bru, donc, qui a pris en tête l'Union Bordeaux-Bègles depuis le début de saison, il a dit récemment en conférence de presse, il ne comprend pas pourquoi des grosses équipes ne jouent pas sérieusement cette compétition parce que c'est vrai, on peut se dire que c'est l'un des meilleurs moyens de préparer les matchs de phase finale, de préparer les matchs internationaux, de préparer de manière générale même les matchs à haute intensité. Et j'ai même envie de dire que de manière générale, on observe que les équipes qui sont le plus souvent favoris pour gagner des titres à la fin de la saison, ce sont les équipes qui jouent le plus sérieusement la Coupe d'Europe.
Pourquoi vous avez rigolé? C'est le sinusoïdal.
Votre réaction, j'ai vu.
C'est
que,
le fait que vous l'ayez placé sans mâcher les mots. C'était assez incroyable. Entre ça et le Kitzbühel de Coraline, là, on est au top de l'articulation.
On est au top, là, vraiment. Là,
je sens que ça va être une belle émission aujourd'hui.
Là, on a le verre d'eau, tout est bien.
Voilà, on est au top. Et attention, parce qu'il va pas falloir bafouiller pour...
Bafouiller.
Oui. Bafouiller. Oui.
J'ai entendu bafouiller.
Ah non, bafouiller.
Allez.
Ah, d'accord. Vous êtes sûr que vous voulez jouer à ça? Attention, parce qu'après, on va recevoir Maître Taekwondo. Alors, m'embêtez pas trop, parce que je me fais des amis maintenant.
Peut-être le flop.
Peut-être le flop, non. Est-ce qu'il y a des mentions honorables, peut-être, autour de la table? Oui, pourquoi pas. Adrien Manarino?
Oui.
C'est plutôt...
Moi, c'était ce que j'allais mettre en flop, oui. Du coup.
Du coup, votre flop?
Le flop, je comptais mettre les Français au tennis.
Oui,
alors, tout le monde n'est pas d'accord autour de la table, si j'ai bien compris. Mais excusez-moi, est-ce que vous savez que la Fédération française de tennis est la fédération française la plus sportive, la plus riche de France? Notamment parce que, elle possède quelques centaines de millions d'euros dans la trésorerie, dont une grande partie provient effectivement de la vitrine du tennis français qui est
Roland Garros.
Voilà. Et donc, en 2019, par exemple, on estimait qu'il y avait 325 millions d'euros dans les caisses de la fédération, ce qui faisait donc, comme je l'ai dit, la fédération française sportive la plus riche de France, et que 255 millions uniquement étaient issus de Roland Garros. Et donc là, on peut se demander, on a donc une fédération qui est très riche, qui est gérée par des personnages politiques importants. On rappelle que une des anciennes présidentes ou une des anciennes forte tête de la Fédération française de tennis, il y a quelques-uns qui sont devenus ministres ou qui ont pu avoir des postes importants après. Et au final, donc, on se rend compte que ce sont des personnes qui ont des capacités politiques, peut-être qui pourraient avoir des ambitions pour le tennis français. Et au final, on est là à faire une de l'équipe, excusez-moi, le réarmement tennistique comme on a pu l'avoir cette semaine. Parce qu'on a quoi ? On a pas, parce qu'il y a des gens qui ont passé le deuxième tour. On en est vraiment
là. Non, mais là. C'est des gens auxquels on ne s'attendait pas. Arthur Cazot, on s'attendait
non,
pas.
Non, mais je trouve plus que
maintenant,
le niveau
y a plus beaucoup de Français.
Le niveau d'attente est devenu extrêmement bas. On est passé de, il y a encore quelques années, à Tsonga et mon fils pourront peut-être faire quelque chose. À maintenant, on est content parce qu'il y a des Français qui arrivent au deuxième tour. Et là, donc tous les Français ont été éliminés en huitième de finale avec Manarino, Cazot et zut, je n'ai plus le nom de la... De... Océane Dodin, voilà. Océane Dodin, donc ils ont
ça
été...
fait 3 déjà.
Ça fait 3, mais en 8ème de finale, tous éliminés.
Mais oui, mais ça fait combien de temps qu'un Français n'a pas gagné Roland Garros?
Oui, mais ça fait combien de fédérations qui sont très compétitives sur le plan international alors qu'ils ont moins de budget. Et en plus, ce n'est pas un sport d'équipe, c'est un sport sur lequel on peut se focaliser sur les personnes les plus compétentes. Et pourtant, il y a les moyens de le faire. Il y a visiblement la renommée parce que Roland Garros est une vitrine que très peu de pays ont la chance d'avoir dans ce monde. Et pourtant, on est un pays qui n'arrive à gagner aucun grand chelem.
Vous êtes sûr, Coraline, de vouloir prendre ce risque? Je vois du sang dans les yeux d'Erwan, ça va
non,
être
non, non,
dangereux.
Non, juste lui poser une question, parce qu'il me semble que chez les jeunes, les Français ne sont pas non plus mauvais.
Oui, Fils est très bon, il a gagné en junior le Roland-Garros.
Donc pourquoi il y a un tel écart entre Fils, chez les jeunes, et quand ils passent au niveau senior, ils n'y parviennent pas?
Moi déjà, je suis pas sûr... que les catégories jeunes de tennis soient si révélatrices que ça du niveau qu'après puisse avoir les seniors parce que déjà on voit il y a beaucoup de tennisman qui arrivent très jeunes sur le circuit principal.
On a hâte de voir la fin de Djoko.
Je pense pas que il y a peut-être des personnes qui restent une catégorie en dessous. C'est un peu comme ceux qui sont en F2 et on dit oh il est super fort, mais oui, mais personne n'en voulait en F1 quoi. Donc c'est un peu j'ai un peu ce sentiment là des fois sur les catégories jeunes de Roland Garros, surtout ces dernières années où il y a des tennisman vraiment très jeunes qui arrivent à performer sur le circuit senior. Bon, certes ils vont pas commencer à y aller dès 14 ans, mais j'ai l'impression qu'il y a un traitement qui est différent et qu'on fait volontairement en France l'effort de se mettre des œillères parce que nos jeunes réussissent dans les catégories jeunes pour se dire qu'on a un avenir potentiellement de ce sport, avenir qui arrive jamais.
Corentin, pour terminer.
Moi, ouais, ça serait pour confirmer un peu les propos d'Erwan hein, par rapport aux catégories de jeunes. On sait qu'à une époque, Richard Gasquet battait Rafael Nadal en tournoi en étant jeune, alors que finalement, ensuite, sur Roland-Garros, c'est jamais arrivé. Donc voilà, il y a un moment où aussi peut-être le staff arrivait à débaucher les bonnes personnes pour encadrer ces jeunes potentiels. C'est ce qui va compter pour la Fédé.
C'est bien ça. Vous nous trouvez des débats pour le début de Roland-Garros. C'est bien, ça va être pratique. On va parler de Roland-Garros et il y a même une chronique tennis qui va arriver dans pas très longtemps pour voir un petit peu justement l'état du tennis en France. Ça arrivera un petit peu plus tard. Mention honorable donc peut-être pour Adrian Manarino qui a pris sa défaite face à Djokovic avec un petit peu le sourire en même temps. On s'y attendait. Évidemment, malgré tout, on peut quand même être heureux pour lui. Merci beaucoup Erwan pour ce top et ce flop. Tout de suite, le face-à-face.
Esprit Sport, le face-à-face.
Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Zoubir Kefi. Bienvenue dans Esprit Sport. Merci d'être présent aujourd'hui.
Je vous remercie. Merci beaucoup de m'avoir invité.
Alors, on va parler de d'art martial, le taekwondo. Alors, petit point palmarès. Vous êtes 11 fois champion de Midi-Pyrénées. Vice-champion de France 1996 et 1999. Champion de France en 2020. Vous avez fait plusieurs fois 3e à des Open internationaux. Vainqueur du Trophée des champions 2002. Sélectionné au championnat d'Europe 2000. Et vous avez aussi fait la préparation des Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Quel parcours!
Oui, c'est un petit parcours. Hein.
Bah, quand même, c'est déjà bien. Pour vous dire, moi j'ai juste fait un entraînement, ça m'a suffi. Donc félicitations pour tout ça. Hein. Et pour commencer après cette belle carrière, au tout début, comment cette histoire a commencé? Comment vous êtes intéressé au taekwondo?
Alors moi déjà tout petit, je baignais dans les arts martiaux. Je suis la génération un peu Bruce Lee. Hein. J'ai grandi comme tous les enfants de ma génération avec les films de Bruce Lee. Donc on a rêvé devant ses techniques, ses coups de pied. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait qui a permis quand même au monde des arts martiaux de bien se développer. Donc ça, c'est vrai que ça a été un grand tremplin pour nous. Donc ça, et puis après, ben, petit à petit, on a commencé par des disciplines avec des copains de quartier, comme le karaté, des sports qui étaient un petit peu plus conventionnels. Et puis un jour, un ami a découvert cette discipline qui venait de débarquer en France, le taekwondo. Donc il m'a dit, viens, on va essayer. J'ai trouvé ça génial. C'était une technique très aérienne, très spectaculaire. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup plu. Ça a été très, très rapide. Le coup de cœur s'est fait très, très vite.
Oui, on peut voir des vidéos sur Internet quand vous pratiquez. Oui, on a vraiment cette impression de légèreté, de voltige même. C'est presque... Alors, c'est un peu plus physique que de la danse. Un peu plus... alors, pas physique, mais un peu plus combatif que de la danse, parce qu'il y a quand même quelqu'un en face. Mais c'est cet aspect incroyable.
Paradoxalement, moi, j'ai même le sentiment en fait, qu'on pourrait comparer le taekwondo, très honnêtement, à de la danse ou à du patinage artistique, avec une finalité qui est très différente, mais ça reste de l'expression corporelle avant tout. Donc on est très aérien, il y a beaucoup d'envolées, beaucoup de sauts, de rotations. Alors c'est vrai que c'était peut-être un petit peu plus explosif, et encore que quand on regarde les prestations des danseurs, en danse classique ou toute autre forme de danse, ça reste quand même aussi très sportif. Hein. La seule différence, c'est que nous, voilà, au bout du mouvement, il y a un impact qui est porté.
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la compétition et même de la compétition à haut niveau?
C'est le dépassement de soi. Alors là, c'est indéniable. C'est le dépassement de soi, l'envie de pouvoir aller au-delà de ses limites. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment, vraiment donné envie. Et puis, quand j'ai goûté pour la première fois, j'avoue que très sincèrement, ça n'avait pas très, très bien fonctionné. Mais j'ai vite accroché parce que j'ai trouvé qu'il y avait une espèce d'atmosphère, d'ambiance dans la compétition qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Ce stress, cette adrénaline en fait qui fait un bien fou, donc qui réveille tout ce qui est endorphine et qui nous permet de vraiment, vraiment aller au-delà de ce que l'on peut imaginer être des limites que l'on puisse avoir. Moi, ça m'a plu très, très vite. Donc ben voilà, et puis je m'y suis intéressé de plus en plus jusqu'à ce que les résultats arrivent assez tard. Parce qu'il m'a fallu quand même au moins 2-3 ans avant de pouvoir réellement performer. C'est vrai que ce n'était pas forcément évident. Et puis après, bah, une fois que ça a accroché, bah, c'est parti.
Pour tous ceux qui ne voient pas ce que c'est le taekwondo, comment on peut le résumer? Alors c'est très loin du judo, parce qu'il n'y a pas d'accroche au kimono. Du karaté, parce que c'est plus souple, on a envie de dire. Comment on peut le résumer?
En fait, il y a deux approches. On a la forme sportive, c'est celle que vous allez voir aux Jeux Olympiques. Donc là, c'est le taekwondo très sportif, celui qui est extrêmement développé, le plus répandu et qui surtout évolue d'année en année, à chaque fois, puisqu'il y a un système de touches sur les placements électroniques, ce qui n'était pas le cas, moi, de mon temps. Donc en fait, les techniques de jambes changent, tout change. C'est vraiment un petit peu comme de l'escrime. Et il y a la forme traditionnelle. Donc le taekwondo sportif est un taekwondo très aérien. On travaille énormément sur les techniques de jambes. Il y a 90% de travail en fait, qui est fait avec des techniques de jambes. Donc ça tourne dans tous les sens. Et il y a un petit peu de technique de poing, mais très peu, parce que les coups de poing ne sont autorisés qu'au niveau du plastron, au niveau du corps. Et il n'y a qu'une seule touche de poing qui puisse être validée. Donc les enchaînements de poing, par exemple, ne serviront à rien. Alors qu'avec les jambes, en revanche, on peut enchaîner. Et il y a la forme traditionnelle qui, elle, ressemble beaucoup plus à tous les arts martiaux classiques, avec une partie self-défense, avec une partie très traditionnelle sur les enchaînements techniques qu'on appelle, nous, des pumse, qui sont l'équivalent de kata en karaté. Il y a un travail au sol, il y a un travail avec des armes également. Donc c'est une discipline en fait qui est très riche. C'est un art qui a plus de 2000 ans d'existence et qui n'a cessé d'évoluer. Donc ça reste quand même, comme tous les autres arts martiaux, une discipline qui est très, très chargée, très fournie.
Justement,
on y retrouve un petit peu tout. Mais ce qu'on met le plus à l'avant, c'est la forme sportive. C'est le taekwondo combat.
C'est plus peut-être moi, c'est plus celui spectaculaire qui
Voilà, exactement. Et c'est ce qui me plaît vraiment. Après, de toute façon, je pratique les deux. Étant enseignant maintenant, de toute façon, je pratique les deux. J'enseigne vraiment les deux. Parce que dans la partie aussi traditionnelle, on va travailler beaucoup plus le contrôle de soi, le contrôle de ses mouvements. On est vraiment beaucoup plus dans une approche un petit peu plus... on y intègre pas mal de valeurs comme vous savez, ce sont les notions classiques en fait des arts martiaux, la courtoisie, l'intégrité, la persévérance, le courage, toutes ces choses-là qu'on essaie de mettre en avant et qui aident aussi pas mal quand on est par exemple quelqu'un de très introverti ou quelqu'un au contraire de trop extraverti. On va apprendre à se contrôler grâce à ces mouvements-là qui nécessitent beaucoup plus de contrôle, parce que toute la partie technique, il faut savoir que c'est une partie qui souvent n'est pas une partie forcément concrète, parce qu'on travaille seul, dans le vide, des mouvements, avec aucune touche derrière, Et c'est vrai que c'est pas évident de se motiver quand on continue à travailler comme ça. Alors que quand vous êtes sur une forme plus sportive, vous travaillez avec un partenaire en opposition, vous avez des cibles dans lesquelles vous allez pouvoir développer en fait vos techniques et frapper, vous libérer. C'est vrai que c'est très différent. Mais les deux approches sont très complémentaires, hein. Très très complémentaires. Hein. Et puis on a même une version dans le taekwondo en fait qui est beaucoup plus intériorisée, qu'on appelle le sonmudo, qui est une forme un petit peu plus, je dirais. Pas tai chi, yoga, mais très intérieur en fait. Mais celle-ci est très peu développée parce que beaucoup de gens n'ont pas forcément, quand on pense au taekwondo, envie de penser à ce côté-là.
On voit beaucoup de similitudes avec le judo et le karaté, cet aspect de maîtrise de soi, de dépassement de soi, bon ça on le retrouve un petit peu dans beaucoup de sports, mais de kata pour le karaté, voilà, avec les bumse au taekwondo, il y a beaucoup de similitudes, mais c'est quand même des disciplines assez différentes.
Oui, complètement. Même ça, ce sont les arts de la guerre, hein, les arts martiaux. Donc, les valeurs, en fait, on va les retrouver dans tous les arts martiaux, qu'ils soient d'Inde, qu'ils soient d'Asie, qu'ils soient de, peu importe, d'Amérique du Sud, même d'Afrique, puisqu'on a des arts martiaux là-bas aussi. En fait, les valeurs resteront très, très souvent les mêmes. Hein, donc, il y a l'humilité avant toute chose, et puis après, ben, toute l'intégrité, le contrôle, etc. Hein. Donc, mais la forme sportive, il est vrai que c'est une forme très, très différente et qui, d'ailleurs, a souvent tendance, malheureusement, maintenant, à s'éloigner un petit peu de ses valeurs. On est plus dans la performance maintenant, quand on est dans cette approche-là, et on en oublie un petit peu l'essentiel qui nous permet de vraiment avancer, à savoir ben, avoir un mental de guerrier, quoi, avoir considérer que les valeurs en fait sont la priorité pour pouvoir avancer.
Alors vous êtes maintenant maître instructeur, mais comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, vous avez fait la préparation olympique des Jeux de Sydney en 2000. Comment en tant que sportif de haut niveau, vous avez préparé ces Jeux olympiques? Nous en France, ça arrive dans peu de temps. Comment on se prépare à ça en tant que sportif?
Ça c'est le Graal, hein. Vous savez, c'est...
Déjà, comment on apprend qu'on va participer à cette préparation? Comment vous l'avez vécu, vous?
En fait, ce sont les instances en fait fédérales, hein, qui vous convoquent et qui vous disent voilà, vous faites partie du potentiel en fait athlète qui va très certainement représenter la France à telle activité. Donc vous avez des convocations. Ensuite, on a des préparations avec des stages. Moi, de mon temps, ces stages-là se faisaient dans des pôles. En fait, on n'avait pas l'INSEP, hein, à l'époque. Donc on faisait ça sur les Crêpes, on faisait ça à Font-Romeu au lycée climatique. Donc, où il y a des structures qui permettaient de s'entraîner. Et puis après, il y a toute une préparation qui est faite avec beaucoup de sorties et d'échanges avec des pays étrangers. Vous allez faire en fait ce qu'on appelle des open, donc des rencontres pour vous préparer à affronter les meilleurs de manière à être prêt le jour J. Tout simplement. Après, par contre, il y a une chose qui a beaucoup évolué depuis, c'est que maintenant, il y a un gros travail qui est fait sur l'aspect mental, ce qui ne se faisait pas trop avant. Il y a beaucoup de préparateurs, en fait. Avant, on n'avait quasiment que des préparateurs physiques. Maintenant, on se retrouve avec beaucoup de préparateurs mentaux. Donc ça, c'est très bien, parce que ce qui pêche très souvent dans le haut niveau, ben, c'est le mental, c'est pas forcément la technique. La plupart des athlètes, quand ils sont à ce stade-là, ils ont le même potentiel, ils ont le même niveau technique. La différence, elle va se faire à celui qui aura l'envie de passer au-dessus de l'autre. Et ça, c'est le mental. C'est ce qu'on trouve très souvent également dans le tennis, hein, par exemple. La peur de mettre la balle à côté, et c'est pour ça qu'ils travaillent beaucoup avec des préparateurs mentaux. Hein.
Il va falloir surtout gérer cette émotion, puisque là, les JO seront à domicile, donc il y aura une envie des sportifs français de réussir à la maison et de pas être ridicule, même si on ne l'est jamais, hein, parce qu'on participe quand même à une des plus belles compétitions mondiales. C'est vraiment compliqué à gérer. On rappelle en plus qu'en France, on a déjà des médaillés.
Althea Lorrain, absolument. Ouais.
Médaille de bronze en 2021. Et donc,
qui est d'ailleurs la grande favorite maintenant, elle est classée au ranking, elle est numéro 1 mondial.
Voilà, donc on espère que après le bronze, on va peut-être passer à l'argent, voire alors.
On a 2-3 athlètes qui sont potentiellement vraiment susceptibles de ramener de l'or. Il y a Magda Vietnamien aussi, à moins de 67 kilos, qui est numéro 1 mondial. Et puis chez les garçons, il y a un petit jeune, Alan Philippe, là, qui s'appelle, qui est vraiment très très bon et... qui actuellement est en train de vraiment performer dans une catégorie très relevée, la catégorie des moins de 68 kilos. Je pense qu'il y aura quand même une médaille au bout pour les garçons pour la première fois de l'histoire du taekwondo français. Pascal Gentil.
On se souvient de Pascal Gentil qui avait fait bronze en 2000 et 2004.
Exactement, tout à fait, qui est passé à côté de l'or en 2000 d'ailleurs. Hein. C'est bien dommage, et malgré lui, le pauvre.
Est-ce que 2024, vous pensez que c'est l'année des Français au taekwondo?
Ah, moi, je reste persuadé qu'on aura une médaille d'or. On fait une médaille d'or cette année.
Je suis convaincu. C'est bien,
la préparation est bonne. L'équipe est vraiment bonne. L'équipe n'a jamais été aussi bonne. Donc, non, il y aura une médaille d'or, ça c'est certain.
C'est bien, comme ça on pourra dire qu'on l'a entendu avec vous en premier ici dans cette émission. Quel est le moment marquant de votre carrière qui vous a vraiment le plus marqué? Si vous devez nous en citer un là, maintenant, tout de suite, ça serait quoi?
C'est compliqué parce que...
Il doit y en avoir plusieurs avec tous ces palmarès. 11 fois champion de Midi-Pyrénées.
Ouais, ça encore, je sais pas, non. Mais même, honnêtement, ce ne sont peut-être pas les podiums. Non, moi je dirais que c'est plutôt les rencontres que je fais. Voilà, en tant qu'enseignant.
C'est le chemin qui est plus beau que l'arrivée.
Ouais, mais j'ai mis du temps, en fait, à me persuader. Parce que moi, j'enseigne depuis très longtemps. Même en étant athlète, j'enseignais également. Donc, j'ai commencé à donner des cours en 92, vous voyez, alors que j'ai démarré le taekwondo en 89. Donc, j'ai commencé très tôt à enseigner. Alors, je suppléais plus mon enseignant de l'époque, mais jusqu'à le remplacer sur beaucoup de sections au bout d'un moment, très rapidement. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, je pense, ce sont les rencontres, en fait, qui sont pour moi le point le plus marquant, parce qu'on a toujours des petites histoires avec des gens qui ont des particularités, surtout les enfants. Quand vous recevez un enfant avec un handicap très important et pour lequel personne en fait n'a envie d'accorder d'importance, et qu'au final en fait cet enfant s'accroche à l'activité parce que là, il se passionne, il a envie d'avancer et vous le voyez progresser, ça m'a plus marqué que les podiums que j'ai pu faire. Alors, ce sont vraiment les rencontres, je dirais.
Les expériences de vie qui font que grâce au taekwondo, on sent vraiment une vraie passion.
Même, vous savez. Oui, mais j'aime ça. J'ai quelques enfants. J'ai eu des enfants qui étaient autistes. J'ai eu un petit peu de tout, avec certains handicaps qui vraiment les excluaient complètement de la vie de tous les jours. Et ces enfants-là ont réussi à trouver un équilibre dans l'activité. Et ça, pour moi, c'est plus marquant que tout le reste. Vraiment. Parce qu'après, le titre, on en a eu. J'ai même une de mes anciennes élèves qui a gagné la Coupe du Monde de la Francophonie. J'ai eu pas mal de titres, de vraiment, vraiment de titres. Mais en fait, ça ne fait que passer, toutes ces choses-là. Ça vous marque, mais ça ne fait que passer.
Les titres passent, mais l'expérience reste et marque vraiment le sportif. Ou vous, en l'occurrence.
Oui, c'est ça. Après, bon, évidemment, je veux dire honnêtement, toutes les compétitions que j'ai pu faire, elles ont toutes été très belles. Ça a toujours été... un grand moment, ça a été fantastique. Et puis même, très sincèrement, même les fois où il n'y a pas eu de résultat. Hein. Parce que c'est toujours pareil, il y a cet aspect humain qui est toujours mis en avant. Vous rencontrez des gens, vous voyagez à travers le monde. Et ça, c'est fabuleux. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Mais il faut savoir faire la part des choses et se dire que ça ne dure qu'un temps. Ça ne peut pas être éternel. Et puis c'est surtout qu'il faut arriver à se construire, il y a un après. Et c'est ça qui est le plus important. Et ça, c'est peut-être le côté le plus compliqué de l'athlète de haut niveau. De se dire qu'il y a un moment où tout s'arrête, et quand tout s'arrête, on n'est plus rien. Et c'est là où il faut arriver à trouver la passerelle pour se reconstruire, et d'où l'enseignement. Voilà. Donner des cours et continuer en fait cette notion de transmission.
Vous, en tant qu'enseignant, vous attendez quoi de ces JO 2024? Peut-être plus de lumière sur cette belle discipline?
Ça serait une belle chose, parce que c'est vrai qu'on est encore un petit peu dans l'ombre, bien que on parle de plus en plus de quand même notre discipline, maintenant. Mais... Non, c'est vrai que ça serait bien, parce qu'un titre, ça fait quand même toute la différence, et ça permettrait de mettre un petit peu plus en avant ce sport. On est quand même dans un pays où, je parle pour la France en fait, où c'est vrai que c'est très compliqué, parce qu'on s'attache beaucoup à les traditions. La France, c'est le judo, et c'est vrai que le judo français, c'est son numéro un au monde depuis des années et des années. C'est une très très belle école de judo. Ils sont très forts, ils ont des valeurs qu'ils ont réussi à développer, à mettre en place, mais même dans le système scolaire, puisqu'on retrouve pas mal de clubs de judo en fait dans les écoles, et ils ont été très très forts pour ça. Et là, honnêtement, c'est fabuleux ce qu'ils ont fait. Mais il faudrait que d'autres disciplines puissent enfin pouvoir aussi s'exprimer et montrer un petit peu ce qu'elles valent. Et pour ça, il faudrait que les médias et le tout public s'intéressent un petit peu plus à eux. Et il est évident que les Jeux Olympiques, ça reste une passerelle pour ça. C'est même un tremplin. Donc on espère avoir une médaille d'or pour qu'on puisse enfin nous mettre un petit peu plus en avant.
Eh bien, on l'espère fortement, cette médaille d'or pour les sportifs français, et notamment en taekwondo. Merci beaucoup, Monsieur Kefi, d'avoir répondu à nos questions. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2024?
Bah, de continuer à avoir la foi, la passion, et puis donner toujours autant d'énergie dans ma transmission de cet art que j'adore. Hein. C'est surtout ça. Hein.
Et on aura hâte de suivre les sportifs français et aussi le taekwondo. Voilà, comme ça, moi, maintenant, vous en savez un petit peu plus sur le taekwondo. On va essayer de parler de plus en plus de sport olympique pour être au courant et être prêt pour les JO. Tout de suite, Pharrell Williams. Et on se retrouve juste après.
Sport, la chronique.
Et pour la chronique de la semaine, chers auditeurs, je vais vous demander de ne pas avoir peur, déjà, de ne pas courir vers votre radio pour baisser, voire couper le volume, mais de vous laisser porter par une discipline encore bien méconnue du grand public, mais qui cartonne chez les jeunes, l'e-sport, et c'est la chronique d'Erwan.
Oui, Jonathan, j'en ai conscience. Ça peut paraître un peu barbare, dit comme ça, mais l'e-sport, ou parfois aussi appelé le sport électronique, désigne la pratique compétitive de jeux vidéo, et parfois à très très grande échelle, même à une échelle mondiale. C'est-à-dire que ce sont des gens qui jouent au même jeu vidéo, avec pour but d'être le meilleur possible à ce même jeu vidéo. Et pour commencer, je vais désamorcer la question qui vous pend tous aux lèvres, soit,
Alors dites-nous, Erwan, l'e-sport, c'est du sport ou pas ?
Eh bien, à ceci, je vous répondrai, on s'en moque. L'e-sport est une discipline avec ses propres codes. Elle ne cherche pas à se substituer au sport, mais bien à avoir son propre écosystème. Ainsi, je vous dirais, prenez seulement l'e-sport comme il l'est, c'est-à-dire une manière de se demander qui c'est le plus fort, mais à travers un nouveau média et cette fois sur les jeux vidéo. D'ailleurs, l'e-sport, ça existe depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, et au fil de ces mêmes années, ça a sérieusement commencé à se faire son trou dans le paysage compétitif et médiatique français. Ainsi, certaines formations sont suivies par des dizaines, voire même par des centaines de milliers de supporters, d'ailleurs peut-être même vos amis, vos enfants ou vos petits-enfants en font partie. La particularité de l'e-sport étant qu'un club peut présenter des joueurs sur plusieurs jeux différents, tout en gardant le même nom, le même logo et la même identité. C'est un peu comme au début du siècle dernier où quasiment tous les clubs de sport proposaient des sections omnisports, comme le Stade Toulousain, le Stade Français, etc. Ou même le PSG actuellement. Avec des clubs, un club de handball par exemple.
Le judo aussi.
Oui, le Stade Rochelet, son club de basket. Enfin, les exemples ne manquent pas. Et de cette manière, chaque jeu propose une compétition propre avec son propre calendrier et des fonctionnements qui varient d'un jeu à l'autre. Alors, on ne va pas se mentir, même ceux qui suivent un peu n'y comprennent pas toujours. Et je peux vous l'affirmer, parce que quand j'ai proposé cette chronique, c'est un peu
On se dit doucement. Enfin,
voilà, on se le dit doucement. Donc, je ne vais pas vous faire l'affront d'essayer de vous expliquer tout ça, car si on inflige ça à vos oreilles, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer.
Alors, pourquoi vous nous parlez d'e-sport, Erwan ?
Parce que nous sommes en année de Jeux Olympiques, pardi, en France qui plus est. Et sachez que le Comité Olympique International, ou CIO pour les intimes, essaye depuis déjà quelques années d'intégrer l'e-sport aux Jeux Olympiques. Mais il faut l'avouer, sans trop de succès. En effet, le CIO veut profiter de cette discipline qui regroupe de plus en plus de passionnés. Néanmoins, plusieurs problèmes se présentent. Premièrement, le CIO affirme ne pas vouloir de jeux trop violents, ce qui peut parfaitement se comprendre. Néanmoins, la limite de violence fixée n'est pas toujours très claire, et ainsi les fans de tel ou tel jeu ne savent pas s'ils sont concernés. Deuxièmement, le CIO ne veut pas non plus intégrer un jeu vidéo précis aux Jeux Olympiques. Bah oui, car si ça arrivait, ça donnerait énormément d'influence à l'éditeur du jeu, qui donc verrait son jeu être proposé tous les 4 ans aux mêmes Jeux Olympiques, et se retrouverait estampillé de la marque JO à vie, sans que le CIO puisse y faire grand-chose. Imaginons, par exemple, que demain, un jeu chinois, on se rend compte que la maison d'édition qui produit ce jeu participe au génocide actuel des Ouïghours, qui a été dénoncé par de nombreux pays européens, ça ferait un peu tâche.
Alors du coup, quelle est la solution à ces obstacles ?
Ainsi, face à ces deux problèmes, le CIO a essayé de lancer ses propres Jeux Olympiques de l'e-sport. Mais la douche froide arriva très, 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 très vite. Quand les amateurs d'e-sport comprirent que le CIO voulait seulement intégrer des jeux de sport, en fait. Donc, des jeux de simulation, d'athlétisme, de football et de basketball. Mais comme je l'ai dit au début de cette chronique, l'e-sport ne cherche pas à se substituer au sport. Donc, la nouvelle a été assez mal reçu. Ainsi, le comité olympique a voulu faire volte-face et semble désormais prêt à accepter de vraies licences de jeux vidéo sous ses couleurs, comme par exemple Street Fighter ou Rocket League, des jeux d'ailleurs où les Français ne sont pas si mauvais que ça. Et pour bien intégrer ces jeux à d'éventuelles épreuves olympiques, le CIO veut prendre exemple sur les jeux asiatiques. Cette compétition continentale possède en effet une catégorie baptisée jeux d'esprit, où on peut notamment retrouver les échecs, et où l'e-sport a récemment fait son apparition lors des Jeux Asiatiques de 2023.
Eh bien merci Erwan, on comprend que voir des jeux vidéo JO, c'est pas pour cet été, mais qui sait, peut-être que ça arrivera bientôt dans des futures éditions, et avec peut-être de futures médailles olympiques pour les Français.
Et pourquoi pas ?
Voilà, c'est... c'est bien, c'est très clair Erwan. On s'attendait à plus de compliqués. De...
Non, je n'ai pas bafouillé.
Voilà, non, mais moi, oui, moi, j'en perds mes mots. On s'attendait à plus de précision, plus de complications dans les termes. Voilà. Surtout sur des jeux, quand vous nous parlez de Rocket League, de Street Fighter, bon, encore Street Fighter, ça peut parler peut-être à certains, mais je suis sûr que Coraline pratique le jeu vidéo sur Street Fighter.
Bien sûr, bien
sûr. Les jeux de bagarre.
Exactement.
Rocket League, c'est un jeu de voiture, de foot, mais avec des voitures.
Oui, mais bien sûr, bien sûr.
Pourquoi on ne ferait pas des JO avec Mario Party, Jeux Olympiques et compagnie ?
Parce que les gens se taperaient dessus peut-être au bout d'un moment.
Oui, c'est vrai. Ils jetteraient la manette les uns sur les autres, en tout cas. Voilà. Affaire à suivre une nouvelle fois. Tout de suite, il est l'heure du débat. Et cette fois-ci, c'est bien réel sur le plancher des vaches. Le TFC éliminé en 16e de finale de Coupe de France. Mais les violets méritaient-ils d'aller plus loin? Alors Corentin, au final, est-ce que c'est... le TFC est tenant du titre, on le rappelle, de cette Coupe de France, mais est-ce, au final, est-ce que c'est pas un peu mérité pour le TFC? Est-ce qu'il méritait d'aller plus loin?
Alors, moi je pense que l'élimination elle est totalement méritée pour le TFC. Au vu de ce qui est proposé depuis quelques temps quand même, si on enlève l'exploit qui a eu lieu face à Liverpool, ça reste quand même très pauvre dans le jeu pour nos violets. Et voilà, je pense que faire pâle figure face à une équipe de ce niveau-là, sans manquer de respect à leurs adversaires du match, hein. Mais normalement, une équipe de Ligue 1, elle doit être compétitive. Et là, ça n'a pas été le cas. Les tirs au but, c'est pas de la loterie, on l'a vu. Alors, le TFC s'est bien défendu. Hein. 12-11, c'est pas catastrophique, mais je pense que les Toulousains ne méritaient pas d'aller plus loin. Leur calendrier va déjà être chargé. Maintenant, c'est opération maintien. Pour s'éviter d'avoir peut-être un parcours comme les Nantais l'an dernier, qui ont joué sur tous les tableaux avec un tour de coupe face à la Juventus, aller-retour, et puis ensuite la Coupe de France jusqu'à la finale, et qui ont tremblé jusqu'à la dernière minute, jusqu'aux derniers instants du championnat pour leur maintien. Donc on espère que les Toulousains vont pouvoir se concentrer un peu sur les vrais objectifs de cette saison.
On rappelle aussi que les finalistes de l'année dernière sont punis, puisque Nantes aussi a été éliminé par Laval. Voilà, donc les deux finalistes de la précédente édition ont été éliminés, donc peut-être qu'au final, voilà, c'est la punition pour les deux derniers. Bon, ça sent le PSG en finale.
Ça sent ça, mais surtout, il faut peut-être valoriser les équipes de Laval et Rouen, qui sont respectivement Laval, très bonne surprise de Ligue 2 depuis ce début de saison, et Rouen, pareillement. Très bonne surprise de National.
Finalement, les places à 35 euros, c'était peut-être mérité.
Non, quand même pas.
Coraline, vous qui suivez pas forcément le foot passionnément comme Corentin ou attentivement comme Erwan, voir le TFC se faire éliminer en 16e de finale de Coupe de France face à Rouen, est-ce que ça vous choque et est-ce que vous trouvez que c'est mérité pour les violets?
En tant que tenant du titre, on ne les attendait pas justement à terminer à ce niveau-là. Je pense qu'être éliminé en quart de finale, ça aurait fait un petit peu moins de tâches sur le papier. Bien sûr, après, ça dépend de l'adversaire. L'adversaire étant toujours tiré au sort, bien sûr, ça dépend. Effectivement, si on tombe contre le PSG en 16e, naturellement, ça peut être beaucoup plus compliqué. Mais ça fait un petit peu tâche. Moi, je pense que le TFC avait en plus le niveau pour aller plus loin.
De au moins passer cette étape-là.
Oui.
Peut-être.
Bah, surtout contre cet adversaire-là, en effet, sans manquer de respect à leurs adversaires. Mais je pense qu'ils avaient possibilité. Ils ont mené quasiment tout le match. Non. Il y a eu 2-1 à un moment donné. Non, il y a eu 1-0. 0-1.
Est-ce que vous voulez le détail?
Non, mais enfin, ils ont mené quand même une bonne partie du match, il me semble. Et ensuite, les TFC ont mené
jusqu'à l'heure de jeu. Même pas. Ils ont mené jusqu'à un peu avant la mi-temps. Et après, Rouen a mené jusqu'à la 92e. Et ils ont pris un but là. Et puis après, c'est allé au pénalty. Parce qu'après le temps réglementaire, il n'y a pas de prolongation. C'est directement les pénaltys.
Oui.
Donc, Rouen menait le match jusqu'à la 92e minute.
Ouais, donc c'est quand même...
Il y a quand même de quoi s'en mordre les doigts du... Enfin, pas du tout d'ailleurs, puisque Rouen s'est qualifié. Mais voilà. Est-ce que c'était pas finalement un coup de chance l'année dernière?
Non, quand on arrive en finale, c'est pas de la chance à un moment donné. Hein. C'est que il y a les qualités techniques, il y a les qualités physiques pour arriver en finale. C'est pas de la chance.
Il y avait une vraie, après il y a eu beaucoup de transferts cet été et c'est peut-être ce qui a amené à affaiblir le groupe toulousain et à du coup s'arrêter si tôt dans la Coupe de France. Erwan, est-ce que c'est mérité pour le TFC ou est-ce qu'ils auraient pu peut-être aller un petit peu plus loin?
C'est mérité au vu du jeu déployé. Je vais revenir sur l'argument de Corentin. Je pense que cette défaite en Coupe de France, on aurait tort de la sortir du contexte global du TFC. Le TFC a des joueurs de qualité qui sont certes pas aussi investis que l'an dernier, mais on le voit sur des grosses rencontres, ils sont capables d'élever leur niveau de jeu. Il y a eu le premier match face à Lens cette saison, il me semble, où ils vont à Lens et où ils perdent. En tout cas, ils maintiennent la dragée haute contre Lens, du coup, dans le Nord. Il y a eu les fameux matchs de Ligue Europa, dont le match retour à Liverpool.
Oui.
Et même le match à Liverpool, même s'ils ont pris, la cacahuète.
Ils ont pris 5-2, je crois.
Oui, voilà. Il y a eu quand même une bonne partie du match où on sentait qu'ils avaient vocation de montrer quelque chose. J'ai l'impression que quand il y a des gros adversaires, il y a vocation de montrer quelque chose. Par contre, il y a quand on va dire que l'intérêt principal du match ne motive pas les joueurs, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose parce qu'il n'y a pas de plan de jeu et de fond de jeu derrière. Philippe Montagnier, il avait un excellent plan de jeu derrière. On l'a répété, et tout le monde l'a dit, même ceux qui n'étaient pas observateurs du TFC. Mais voilà, les Violets, ils jouaient bien, ils jouaient très bien au foot. Ça poussait même des gens qui n'étaient pas fans de Toulouse à regarder les matchs des Violets. Et ça a permis d'aller jusqu'en finale. Je pense que outre le fait qu'il y avait des très bons joueurs l'an dernier, il y a vraiment ce côté où le TFC savait comment jouer, avait une idée, un plan de jeu, et dès qu'on alignait les acteurs, on va dire titulaires, sur la pelouse, il n'y avait pas besoin tant que ça de les aiguiller, parce qu'en fait, il y avait tellement un calque qui était déjà posé sur l'équipe, qu'il se retrouvait quand qu'il arrive. Là, on a un peu l'impression que ça varie en fonction des matchs, il y a une forte envie de verticaliser le jeu quand on retrouve, mais qui est étrange parce qu'on passe vraiment du tout au tout. La saison dernière, on était beaucoup sur un jeu de possession où certes il y avait des transitions rapides vers l'avant. Là je rentends un truc un peu technique, mais
parce qu'il y avait les joueurs pour le faire. Maintenant,
Le problème c'est que le discours en conférence de presse du coach actuel, il est, je vais pas dire son nom à chaque fois, je me rends compte, je l'écorche après quand je me réécoute. le discours du coach actuel, il est
du TFC.
On va essayer du TFC, oui.
Carlos Martinez Novel.
Merci.
Très bien, il n'y a pas de souci.
Et je crois que c'est pas Carles ?
Carles, oui, voilà. C'est vrai. Carles Martinez Novel.
Voilà, je ne suis pas le seul à avoir un peu de mal.
Oui,
mais
merci.
Mais en tout cas, vous le dites mieux que moi.
Mais avec plaisir.
Mais il n'arrête pas de répéter à qui veut le croire que le TFC joue sur la possession de balles. Un peu comme le faisait du coup essayer de le faire Philippe Montagnier avec ses armes l'an dernier. Sauf que, je suis désolé, mais qui regarde les matchs du TFC a l'impression que le TFC essaie de voir le contrôle du ballon. Non. Soit ils y arrivent absolument pas, mais dans ce cas-là, il faut tout revoir parce qu'ils y arrivent vraiment pas. Le plan de jeu, c'est pas celui-là, quoi. On ne comprend pas ce que c'est.
On a pu aussi apercevoir, vous me corrigez, mais un manque d'agressivité dans ce match, un manque de. Peut-être qu'ils l'ont pas pris au sérieux auquel ils auraient dû. Peut-être que c'était un petit peu trop fébrile en se disant même en jouant moyen ça va passer contre Rouen. Finalement, force est de constater que Rouen, qui va prendre Monaco au prochain tour, avait le couteau entre les dents et au final ils sont passés. Est-ce que peut-être dans cet effectif il manque petite touche en plus, cette petite flamme, cette petite hargne qu'apportait les joueurs qui sont partis, De Jagereux, Van den Bomen, qui sont partis, est-ce que peut-être eux qui amenaient ça ont peut-être sont peut-être il n'y aura pas la fin de cette phrase.
Moi je pense pas tant que ça, parce que je trouve que pour le coup, alors à part il manque un vrai milieu récupérateur, on a rapatrié le soldat Sperings qui arrive pas. Siro, c'est un match sur deux et c'est un peu compliqué et on a du mal à se dire qu'on doit lui laisser le brassard, parce que je crois qu'il y a encore quelques semaines il y avait des discussions pour que dès la prochaine saison le brassard lui soit enlevé, même s'il restait à Toulouse. J'ai un peu de doute sur lui, mais à part ça, sinon le milieu je le trouve assez complet. Il y a des profils différents et en tout cas qui font que on devrait ni être à cette place là en Ligue 1 ni avoir ces difficultés en Coupe de France face à des équipes d'un niveau plus modeste, même si comme j'ai dit Rouen c'est une super surprise et j'ai vu un ou deux matchs de cette saison et franchement c'est vraiment du très beau football.
C'était peut-être pas l'objectif de la saison de garder ou d'aller encore en finale de cette Coupe de France. Peut-être que le maintien, parce que le TFC est 14e et n'est pas encore sauvé, peut-être que le maintien est une chose qui tient plus à cœur que cette Coupe de France, même si on aurait bien aimé avoir un tour en plus ou pas. Peut-être qu'il a fallu faire des choix, Corentin.
Je pense que le coach, je pense pas qu'il ait fait de
Il
choix
pouvait pas jouer les deux, quoi.
maintenant. À mon avis, ils auraient pu passer ce tour-là et sortir au prochain contre Monaco, ça aurait été à peu près logique. Encore une fois, face à un adversaire de ce calibre, il faut se qualifier. Mais maintenant, l'objectif, oui, c'est sûr que c'est le maintien. Après, avec la data à Toulouse, attention, parce que si le coach termine 11e alors qu'il aurait dû finir 10e, bon, il va peut-être sauter comme Philippe Montagnier la saison dernière. Donc voilà, je pense que pour l'objectif, enfin en tout cas pour le coach, l'objectif, ça va être d'atteindre les objectifs fixés par la direction. Mais oui, là, c'est opération maintien. Et juste pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le groupe, moi je pense quand même que l'épopée de la semaine dernière, elle s'est construite dès la Ligue 2 avec des joueurs qui ont eu un gros vécu ensemble, qui ont remporté un
Un vrai
titre,
groupe.
qui sont venus en Ligue 1 pour secouer quelques équipes. Ils ont fait bonne figure face à beaucoup d'adversaires. Et cette équipe, elle avait les armes pour jouer la Coupe. Et je pense qu'ils auraient fait un très bon parcours en Ligue Europa si ce même groupe vainqueur de la Coupe de France était aujourd'hui au TFC.
Bah ça fait une coupe en moins et on espère que le TFC pourra peut-être être honorable face au Benfica pour ses deux prochains matchs de Ligue Europa. En tout cas, ça en est terminé du TFC en Coupe de France. La semaine prochaine, nouveau débat. Mais avant de se quitter et de terminer cette heure ensemble, on passe au pronostic. Et oui, parce que Corentin avait vu juste en disant que le TFC allait être éliminé la semaine dernière. Bravo Corentin!
Merci, c'est pas
Voilà.
souvent que ça m'arrive quand même
Non.
de tomber juste sur les pronoms.
Et tout le monde avait dit le TFC et pas de bol, c'est Rouen qui a gagné, vous l'avez vu. Bravo
Surtout que je l'avais vu
Corentin.
au tir au but en plus,
En
hein.
plus, mais vous êtes trop fort, justement, trop fort. Prochain match qu'on va pronostiquer, c'est dimanche 28 janvier à 21h, le Racing 92 qui reçoit le Stade Toulousain, le premier contre le quatrième. Corentin, vous avez 30 secondes pour votre pronostic.
Alors, bah, je vais profiter juste des quelques secondes déjà pour glisser l'info que Owen Farrell s'est engagé avec le Racing 92. Alors, ça n'aura aucune incidence sur le match puisqu'il arrivera au 1er juillet 2024. Maintenant, on sait que le Racing, c'est une équipe qui réussit bien au Stade Toulousain. Je pense que les joueurs, malgré quelques absents pour blessures et des joueurs qui sont avec le 15 de France, ils vont faire un gros match. Donc, je vois une victoire à peu près 30 à 15 pour le Stade Toulousain sans bonus.
30 à 15, et bien félicitations pour ce pronostic, on verra ça la prochaine fois. Coraline, top départ, 30 secondes à vous aussi.
Je vois plutôt les Toulousains perdre. En effet, le Toulouse est fort en Coupe d'Europe, mais un peu moins en top 14. Les Racingmen, eux, par contre, ils sont là en ce début de saison. Enfin, en cette mi-saison, on arrive quand même à la mi-saison. Donc je pense plutôt à une victoire du Racing. Mais de courte victoire, ça se dit pas
Ça
du
c'est
tout.
fini, c'est
Allez,
bien.
voilà.
Non, une
Allez,
petite
non.
victoire.
Ouais, petite victoire. 10 points
Très bien.
d'écart.
Et Erwan, vous avez vous moins de 30 secondes. Voilà, je vous en laisse 10 parce que vous êtes trop fort. Erwan, à vous. Qu'est-ce que vous voyez?
Alors, j'ai l'impression de tout le temps me tromper sur mes pronos, mais alors si vous le dites que je suis trop fort, ouais, je pense aussi que le Stade Toulousain va avoir un peu de mal, il va peut-être avoir les pieds qui vont être vite redescendus sur terre avec le Racing qui va l'emporter, mais de pas beaucoup, je dirais 25 à 17 par exemple.
Très
Voilà, mais
bien.
pas de bonus pour Toulouse.
Voilà. Et bien merci à tous pour ces pronostics et pour cette émission. La semaine prochaine, on parlera de basket dans l'interview. Et oui, on parlera de ce 3 contre 3 qui va arriver au JO. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous donc, même équipe, même heure, même radio, la semaine prochaine pour une heure d'émission dans l'Esprit Sport.